Ce qui est auteur, metteur en scène. Et là, c'est pour sa mise en scène et sa coécriture du texte Les Éblouis, présenté donc par la compagnie Via Négative. Et le texte est coécrit donc par Lydie Paris et Jean-Luc Parent, qui est un plasticien. Et cette création est présentée au Théâtre du Ring. Hier soir, c'était la première. C'est encore ce soir et demain soir à 20h30. Bonjour Lydie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Merci d'être là. Un lendemain de première.
Oui, on est un peu bousculé encore aujourd'hui. Surtout qu'on a une rencontre ce soir avec Jean-Luc Parent, donc il y avait pas mal de choses à prévoir encore.
Et oui, d'accord. Mais d'abord, première question, comment avez-vous rencontré Jean-Luc Parent, justement? Vous connaissiez-vous depuis longtemps ou pas?
Absolument pas, c'est une rencontre de hasard.
Lors d'une résidence
Non, je l'ai rencontré au Festival de poésie Voix Vive à Sète en 2014.
Oui, d'accord.
Et j'habite à Sète moi-même, oui. Et donc c'était dans mon quartier. Et passant devant l'église qui est à côté de chez moi, il y avait un lieu voilà, où Jean-Luc Parent disait ses textes.
D'accord.
Et j'étais tout simplement
subjuguée.
Subjuguée parce que je me suis dit que ça correspondait vraiment à ma recherche personnelle, enfin au texte que moi qui m'intéresse et à ce sur quoi j'écris depuis de nombreuses années. C'est depuis là qu'on s'est rencontrés.
Vous avez noué des...
Oui, aussitôt je l'ai fait venir quelques mois plus tard à l'université de Toulouse,
Jean-Jaurès.
Le Mirail, enfin qui s'appelait encore
Oui,
le Mirail.
Donc vous exercez en tant qu'enseignant, voilà, en tant que professeur.
Oui, je l'ai amené pour rencontrer, enfin je l'ai fait venir pour rencontrer mes étudiants de master création littéraire. Vous savez, c'est un master qu'on a fondé en 2012.
Oui.
Et on a organisé avec Sylvie Tinet et Gérard Tinet à la Galerie Études une exposition aussi de Jean-Luc Parent. Donc là, les étudiants, ils avaient la totale. Là, ils avaient l'exposition, plus la rencontre. Ils organisaient eux-mêmes la rencontre, les étudiants, parce qu'on les forme aussi à organiser des rencontres d'écrivains. Il y a une rencontre publique, puis après une masterclass, c'était ça. Oui, donc voilà comment ça s'est passé. Puis petit à petit, on est devenus amis. Jean-Luc Parent vient souvent à Sète avec Christelle Loquet. Et on est devenus de plus en plus amis et à un moment j'ai eu l'envie de créer ce spectacle en faisant de Jean-Luc Parent un personnage de fiction. Voilà. Et ça se rattache pour moi à un projet très antérieur qui date de 10 ans, où je voulais réécrire L'Oiseau Bleu de Maeterlinck en version contemporaine. Et du coup Jean-Luc Parent... petit à petit, au fur et à mesure de notre amitié, j'ai pensé que c'était avec lui qu'il fallait que je l'écrive.
D'accord. Et comment avez-vous procédé quant à la coécriture, justement ? Le choix de la thématique, bon, ça a à voir avec le problème migratoire, enfin le phénomène migratoire, mais pas que, mais tout ça dans toute une globalité, dans toute votre recherche que vous poursuivez depuis de nombreuses années. Mais comment avez-vous procédé pour écrire ? Parce qu'écrire à deux mains, c'est différent. Habituellement, c'est vous qui écrivez les textes qu'après vous mettez en scène souvent.
Oui, donc là, c'est ça. J'ai écrit un texte que je mets en scène. Hein. C'est bien ça aussi.
Oui, mais
toujours.
Lui aussi a écrit, a participé.
Oui, alors
si j'ai bien compris.
Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. On a procédé par des systèmes de collage. Donc, c'est-à-dire que j'ai écrit une pièce. Mm-hmm. Et dans cette pièce.
Qui est très onirique, très.
Oui, trouve. Donc j'ai écrit une pièce qui est un voyage d'enfants qui ont perdu leurs parents.
Un frère et une sœur.
À Marseille, ils ont débarqué au port de Marseille. Mm-hmm. Parce que j'ai écrit ce texte en résidence à Marseille. Mm-hmm. J'étais en résidence pendant 8 semaines
d'écriture. D'accord.
À la Friche Belle de Mai, à la maison des écrivains,
oui,
à la Marelle.
Mm-hmm.
Et donc ce texte est écrit dans le cadre de cette résidence. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est comme ça que ça s'est écrit. Mm-hmm. Donc j'ai écrit la pièce là-bas. Donc on l'a lu à Marseille en avril, il y a un an, où j'ai eu les premiers retours à Marseille sur l'écriture de cette pièce. J'ai procédé par collage, c'est-à-dire j'ai créé 3 personnages, les 2 enfants qui ont perdu leurs parents et qui arrivent à Marseille, et le personnage du poète, en fait, qui est Jean-Luc Parent, joué par Yves Gourmelon. Mm-hmm. Les deux enfants sont joués par Ludivine Bluche et Charles-Éric Petit. Mmh. Et si vous voulez, voilà, j'ai écrit la pièce. Et le personnage de Jean-Luc Parent parle aux enfants avec mes mots à moi parfois.
Oui, oui.
Et avec aussi des textes de Jean-Luc Parent que j'ai
Vous avez
extrait,
comme ça
Oui, voilà, j'ai
picoré. Et que vous
j'ai,
avez
j'ai picoré des textes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un échange très très fort en 2016, Jean-Luc Parent a eu un arrêt cardiaque, et il a été pendant 18 jours dans le coma, et c'est en sortant de, quand on s'est vu l'été chez lui, enfin chez Christelle Loquet, quand on s'est vu, j'ai vu la pièce et elle est née dans ma tête tout de suite.
Ah oui, comme ça, ça a été un flash.
Oui, elle est venue immédiatement, toutes les problématiques se sont articulées ensemble, la volonté d'écrire l'oiseau bleu à travers la traversée de chambre, puisque mon projet d'écriture à Marseille, c'était chambre aussi. L'écriture de l'oiseau bleu, le fait de faire de Jean-Luc Parent un personnage de fiction, et relier en plus ça à ce qu'il venait de vivre lui, ces 18 jours de coma artificiel où il avait rêvé d'enfants migrants qu'il voulait adopter. Il voulait adopter 2 enfants migrants.
Uh-huh.
Donc, dans son rêve.
Oui, je comprends.
Voilà, donc tout ça est devenu, ça s'est complètement concrétisé. J'ai écrit la pièce en 1 semaine en Bretagne, suite à...
Vous écrivez toujours en Bretagne ?
En grande partie, mais pas seulement, mais en tout cas...
Non, parce que ce n'est pas la première fois.
Oui.
C'est pour ça que je pose la question.
Oui, la Bretagne, c'est le lieu d'écriture en été, c'est certain.
D'accord.
Un très grand lieu d'écriture.
Mmh. Et est-ce que ce lieu-là, de par sa situation géographique, ça vous inspire d'une manière bien particulière ? Est-ce que vous avez besoin de cette atmosphère-là, de la Bretagne, pour justement pouvoir écrire, pouvoir peaufiner, pouvoir cheminer dans votre raisonnement, dans votre recherche ?
Quand j'écris sur la Bretagne, en tout cas, oui, j'écris quand même sur la Bretagne aussi.
Oui, mais je me souviens, j'ai déjà dit des
choses
sur ça.
Oui, c'est pas fini, hein, ça va continuer.
Oui, oui.
Hein. Mais c'est un lieu où je n'ai plus, je ne reçois plus de mails de l'université tout le temps à gérer. C'est les vacances, c'est un lieu un peu privilégié. Et cette retraite en Bretagne me permet de me couper un
peu
de tout.
Vous êtes dans une bulle, d'une
certaine manière. Oui, c'est ça. Mais j'ai 2 bulles maintenant, depuis quelques années. J'écris aussi dans les Vosges, c'est vraiment mon lieu d'écriture.
Oui. D'accord.
Ah, mon lieu de naissance.
Oui, oui, donc, vous l'aviez dit, je crois.
C'est beaucoup plus fort encore que la Bretagne.
Mmh. Oui. Oui, là, c'est pas du tout la même atmosphère, c'est le cas de le dire. C'est
Oui, mais c'est moi, quoi.
Oui, non, mais...
C'est vraiment lié à mon histoire. Les Vosges, c'est un paysage très, très fort aussi, très, très fort.
Oui, oui. Et est-ce que, justement, vous avez besoin de paysages forts, comme vous dites, pour l'écriture, justement ? Est-ce que c'est nécessaire dans votre travail d'auteur, d'écrivaine ?
Oui, c'est vrai que les paysages forts, c'est...
Vous aident, enfin, vous...
Oui, je pense, oui, quand même. Oui. Et puis, bon, c'est... Oui, mais je peux aussi m'enfermer en ville, dans une chambre, pendant 1 semaine, écrire.
Oui, là... Bon,
enfin, quand je dis en ville, c'est à 7, alors bon, c'est pas une ville ordinaire, c'est une ville aussi avec un paysage fort autour.
Hein. Oui, puis c'est une ville portuaire.
Enfin, oui. Oui, enfin, les paysages sont importants pour moi, c'est vrai, habiter dans des paysages...
Et dont là, Les Éblouissants, vous l'avez écrit à Marseille alors que vous étiez en résidence.
C'est voilà,
bien ça,
c'est ça.
Je vous ai bien suivi.
Oui.
Dont là aussi, Marseille, c'est une ville cosmopolite avec...
Je l'ai peaufiné à Marseille, disons. Hein. Je l'ai écrit, la première version, c'était en Bretagne et c'est, après, je l'ai peaufiné à Marseille, oui. Oui, c'est une ville cosmopolite.
Oui, c'est pas une ville de rencontres,
oui.
De...
Oui,
chargée d'histoire, si on...
D'émigration, notamment.
Ben oui, et combien d'ethnies différentes sont venues échouer à Marseille et se sont croisées à Marseille
et ont
construit des choses aussi ensemble à Marseille.
Voilà, c'est ça.
Je pense notamment aux Arméniens. Enfin,
le lieu à Marseille qui m'a inspirée, c'est l'hôtel Perron. C'est en fait le lieu de la pièce.
D'accord.
Qui donne sur la mer et qui est pas loin aussi de la plage des Catalans où Simone Veil avait, non pas la ministre,
mais la philosophe.
Et la mystique avait passé quelques années à Marseille là, donc ça m'a inspiré aussi énormément.
Oui, parce qu'aussi puisque vous parlez de Simone Veil, la mystique, comme vous dites.
Oui, la mystique.
Mais il me faut bien de préciser. Non, mais je veux dire aussi que le mysticisme, ça fait partie aussi de vos recherches aussi.
La mystique particulièrement, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres qui ont été écrites sur un rapport au monde que certaines personnes ont et que les autres ne comprennent pas, et surtout pas les religions.
Oui, il faut bien préciser cela.
Oui.
C'est vraiment complètement différent, c'est sûr.
Oui.
Mais c'est quelque chose, voilà, ça fait partie de votre quête universitaire, si on peut dire, d'écrivaine.
Ma quête ma recherche, j'écris sur le théâtre contemporain à travers, en essayant de rechercher le regard qui est porté sur le monde par ces personnes qui sont aussi d'ailleurs très engagées dans le monde. Hein. Souvent, ce ne sont pas des rêveurs déconnectés.
Non.
On est très loin du New Age. Hein, là.
Oui, non, c'est tout en profondeur.
Oui. C'est un rapport au monde très construit, très, très fascinant. Voilà, et pas du tout New Age.
Donc là, le travail autour de la mystique, et aussi donc là, autour du phénomène migratoire, et donc là, en l'occurrence, en plus des enfants, c'est encore une autre dimension, si je puis dire.
Enfin, oui. Alors quand même, pour revenir sur cette question de migration dont vous me parlez, il faut savoir que une partie de mon identité est liée aux étrangers, puisque ça fait depuis 2003 que j'enseigne à l'université, au département d'enseignement du français langue étrangère.
Oui.
Ça a influé sur toute mon écriture.
D'accord.
Tout mon travail. Donc, même le premier texte que j'ai écrit, il y avait mes étudiants qui étaient à l'intérieur du texte, avec leur nom et tout, l'intérieur du texte, qui a été publié d'ailleurs. Donc, pour moi, le contact avec les cinq continents est très important. D'ailleurs, le texte a été construit en partie aussi sur des témoignages d'étudiants, notamment syriens. Donc les enfants, quand ils parlent de leur expérience de la migration et de la guerre, il y a une référence à... Voilà, j'ai l'habitude de contacter des étudiants qui eux-mêmes sont pris dans les migrations. D'ailleurs, j'ai eu des témoignages absolument fabuleux de la part d'un étudiant algérien et d'un hier.
Et d'ailleurs, hier soir, j'imagine que c'est pareil tous les soirs... Juste avant le début de la présentation de votre pièce, il y a justement des étudiantes qui sont qui participent, à qui vous enseignez, je vais y arriver, qui présentent quelque chose aussi.
Oui, on a présenté, comme je le fais en général, une petite forme de mes étudiantes qui viennent de Chine, d'Argentine, de Turquie.
Nous entendons différentes langues.
Donc elles nous font entendre différentes langues et je trouvais que ça pouvait aller ça pouvait faire un prélude au spectacle. Alors, c'est un prélude de quelques minutes qui est proposé aux spectateurs avant le spectacle où on entend toutes ces langues et ça va entrer ensuite en résonance l'expérience qui est décrite dans la pièce.
Et bien, dont l'importance des yeux et chez vos étudiantes, et puis après aussi dans la pièce, ça revient enfin, comme un leitmotiv. Est-ce que vous pouvez me préciser ce rapport qu'a Jean-Luc Parent avec les yeux ?
Oui, les yeux, c'est vrai que moi j'ai toujours été fascinée par les yeux. J'avais d'ailleurs, bien avant de rencontrer Jean-Luc Parent, 10 ans avant, écrit un texte sur les yeux qui est L'Encercleur, en fait, c'est mon premier texte. J'ai créé à partir de là aussi une installation vidéo qui a été donnée au FRAC Marseille, là, en 2017, et où c'est des yeux qui parlent et qui s'interrogent sur le regard lui-même, qu'est-ce que c'est que l'œil en tant que le globe oculaire, et qu'est-ce que c'est que le regard, et pourquoi nous voyons le monde chacun d'une certaine manière et pas d'une autre. Et ça me fascine depuis l'enfance, je pense. Et quand on s'est rencontré avec Jean-Luc Parent, que je lui ai donné tout de suite mon texte, L'Encercleur, il m'a dit Ah oui. Là, vraiment, on a quelque chose à se dire, c'est certain.
Il fallait que vous vous rencontriez.
Oui, je crois, oui. Et Jean-Luc Parent écrit des textes sur les yeux depuis, publie des poèmes. C'est un poète aussi, sur les yeux
poète,
depuis.
Poète
et sculpteur. Il écrit des textes sur les yeux depuis une trentaine d'années. Il en a publié une centaine. Et c'est toujours la question de le regard que l'on porte sur les choses, le fait qu'on ne peut pas se voir soi-même. Donc on est habité d'une part d'invisible, puisque on peut avoir tous les miroirs qu'on veut, mais on se voit pas soi-même comme les autres nous voient.
Mais quelque part, nous sommes notre propre étranger, quoi, si on peut dire.
C'est tout à fait ça, parce que le monde est divisé en deux parties, c'est-à-dire nous, on a si vous voulez, notre visage et puis notre dos, par exemple, on ne se verra jamais à l'arrière. Dans le monde où on vit, on a une partie soleil, une partie nuit, puisque la Terre tourne et qu'on est à moitié dans la nuit, à moitié dans le soleil. Et donc cette façon de voir le monde à partir aussi de l'ombre, de l'invisible, ça me fascine, évidemment, c'est tout à fait dans ma recherche.
Et ça à voir aussi quelque part, puisqu'il s'agit dans le texte que vous présentez, ce texte très onirique, de cette nuit, entre guillemets, médicale, puisque bon, il a été plongé dans le coma, c'est bien ça.
Tout à fait, oui. Mais c'est un coma artificiel.
J'ai bien compris.
C'était pour qu'il ne s'enlève pas tous ses tubes et tout
C'est un processus thérapeutique.
Voilà, quoi, c'est ça, tout à fait.
Utilisé d'ailleurs. Mais je veux dire, parce que ça aussi, le fait de, quand vous parlez de la nuit, puis aussi de cette partie invisible, ça renvoie aussi dans ce qui se passe dans nos rêves, quoi, puisque bon, il avait rêvé ses enfants, et le rêve, c'est toute une part de nous qui nous apprend des choses, justement, différentes de celles quand nous sommes réveillés, c'est le cas de le dire. Oui. Donc il y a tout ce travail aussi qui a été...
Notre nuit est aussi importante que notre jour. Là, on n'est pas dans une optique psychanalytique. Parce que la psychanalyse ne permet pas d'aborder toutes les questions. C'est un outil très intéressant.
Oui, c'est une approche.
Mais il ne permet pas d'aborder toutes les questions.
Mais là, je trouve, très intéressant ce rêve-là qu'il avait fait, enfin, qu'il avait vu, et puis après, cette rencontre comme ça, qui devient une rencontre artistique, un projet, et puis un aboutissement artistique. Et je trouve que, toute cette richesse, est-ce que vous pouvez en parler vous inviter dans son rêve pour pouvoir écrire ensuite?
Ça se fait très simplement depuis que j'ai rencontré Jean-Luc Parent.
Oui, parce que vous êtes un affinité artistique.
J'écris sur lui, j'écris sur plutôt notre rencontre, c'est pas sur lui, c'est sur les impressions du monde qui me viennent, tout ce qui me vient à travers mes lectures. C'est une espèce de parcours un petit peu qui va dans tous les sens. J'écris.
Et après, vous faites des collages, comme vous dites.
J'écris quelque chose, je sais pas trop ce que c'est, un journal, c'est entre le journal, la forme essai. Enfin, j'écris sur Jean-Luc Parent, voilà. J'écris sur Jean-Luc Parent. Je ne sais pas un jour si je publierai ça, mais en tout cas, c'est quelque chose. Il est au courant, bien sûr.
Oui, je me doute.
il dit, la dernière fois, il disait « Oui, Lydie, elle écrit sur moi, même quand on va manger une glace, elle écrit sur moi. »
Ça peut être important d'aller manger une glace aussi.
Et bien justement, de toute façon, je suis complètement dans le concret. Quand on va manger une glace, il est possible, en effet, que j'écrive quelque chose là-dessus. Mais ça va nous faire décoller à un moment. On part du quotidien, toujours, du banal. Et puis, on décolle. Moi, j'admire j'admire de toute façon l'écriture essai, journal, puisque je suis une grande admiratrice du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa, notamment, hein, qui part vraiment toujours du quotidien, du banal.
Oui, de choses concrètes, précises,
et
effectivement.
Avec quand même une charpente philosophique extrêmement forte, quoi. Et moi, je suis passionnée par la philosophie, donc. Et puis.
D'ailleurs, c'est précisé dans la présentation.
Oui, oui, on a appelé ça féerie philosophique, mais c'est une expression que j'ai reprise à Maeterlinck. C'est comme ça qu'il a intitulé L'oiseau bleu.
D'accord, oui, donc il y a toujours.
Oui.
Une ligne directrice.
Il y a une ligne directrice, oui. Il y a des, la pièce commence avec des phrases de l'oiseau bleu, des répliques de l'oiseau bleu. Et puis,
les phrases enregistrées, vous voulez dire
Non, les enfants, ils disent deux choses au début, et c'est les mêmes choses que disent les enfants de l'oiseau bleu. Et ensuite, c'est juste une petite citation de départ. Et ensuite, il est question dans la pièce du royaume de l'avenir, qui est un des lieux traversés par les enfants dans l'oiseau bleu, c'est-à-dire c'est le royaume de l'avenir, c'est le moment, c'est l'endroit où les enfants sont, on dirait, en attente de naître, quoi. Ils ne sont pas encore dans le ventre de la mer, mais pas loin. Et ils ont peut-être une mission à accomplir sur Terre. Voilà.
Il y a quelque chose, je trouve, dans ce texte de vraiment très, très positif, très rassurant. C'est dit par Yves Gourmelon, où il explique que c'est pas la géographie qui fait la contrée dans laquelle... nous sommes nés, parce qu'en général nous ne le choisissons pas, mais que c'est le fait d'être sur Terre, d'appartenir, donc, d'être tous ensemble sur cette Terre, qui nous fait être des êtres humains, et que c'est ça la principale, que la Terre tourne, et que donc il y a des êtres humains qui vivent dessus, et que c'est ça la principale chose, et que les frontières, c'est pas...
Oui, il y a quelque chose d'utopique. On est ici dans la poésie, mais c'est une façon.
Non, mais c'est magnifique.
Oui, mais c'est une façon de déporter le regard et d'imaginer notre condition qui serait dégagée, évidemment, de toutes les catégories sociales, politiques, etc. Mais qui serait. C'est tout de même politique. Hein, en même temps, tout ce qu'on fait est toujours politique et tout ce qu'on dit est toujours politique. Mais justement, c'est une façon aussi de se placer en dehors de tous les discours qu'on entend perpétuellement, et de replacer les migrants dans la perspective des migrations, les migrations qui ne sont pas seulement pour l'espèce humaine, mais l'espèce animale aussi. Parce qu'il s'intéresse toujours aussi, Jean-Luc Parent, sur la solidarité des animaux et des êtres humains. Et il y a une différence entre les animaux et les êtres humains, c'est que les animaux, eux, ils vivent avec leur corps, donc ils ont un rapport au monde qui est lié à l'échelle de leur corps, et alors que l'être humain, lui, au niveau de l'échelle, ça part dans tous les sens, puisque nous, on peut, à travers notre regard, avoir des informations sur le monde sans y être jamais allé. Donc, on est complètement déconnecté de notre corps, c'est la tête qui fonctionne toute seule, quoi.
Oui. C'est deux...
Alors que l'animal est dans son corps, quoi.
Ben oui, il ne peut pas faire autrement.
De toute façon. C'est ça, oui.
Puis vous parliez de migration, notamment les oiseaux qui migrent, ils ont toujours un trajet, c'est un trajet bien précis, à une saison bien précise, parce qu'il y va de leur survie, de toute façon.
Oui.
Donc c'est sûr que c'est une autre approche. Mais je trouve, c'est très réconfortant d'entendre ces propos, c'est vraiment, ça fait du bien, quoi.
Ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que le projet, il est venu comme ça. C'est-à-dire que j'ai écouté Jean-Luc Parent qui lisait dans les musées, dans les halls de musées, et il lit très bien d'ailleurs, et il lit très bien ses textes. Et il berçait un peu les gens, je trouvais que c'était fort. Les gens, ils sortaient dans un état... très apaisé, quoi. On ne peut pas dire, c'est pas fait pour nous endormir, loin de là.
Au contraire,
c'est une parole d'éveil, hein. C'est pas fait pour nous lénifier, endormir, nous enlever toute révolte, c'est pas du tout ça, hein. Mais par contre, ça nous place ailleurs, ça nous dépayse, ça nous place ailleurs. Et je me suis dit, c'est quand même bête que les seules personnes qui aient accès à ces textes soient les personnes qui viennent dans les musées, ils sont quand même pas trop nombreux à assister à ces lectures. J'avais envie qu'il y ait un public plus large qui puisse y avoir accès.
Et ça montre un autre possible aussi, d'une certaine manière.
Oui, je pense que...
D'autres possibilités, une ouverture.
Le discours, le langage, c'était le langage peut servir à ça. Mm-hmm. C'est un anthropologue avec lequel je suis en relation, que j'admire énormément. D'ailleurs, j'ai un roman que je suis en train d'écrire, un rapport avec ce qu'il fait. Il s'appelle David Le Breton. Il a écrit un livre qui s'appelle Disparaître de soi. Mm-hmm. Je l'ai rencontré. Enfin, j'aime vraiment cette personne. Mm-hmm. Et puis, en plus, ce qu'il écrit, ces deux choses. Donc, cette idée de je sais plus ce que je voulais dire, ça y est. Non, mais
nous étions sur le fait que les gens se sortent apaisés et je...
Ah oui, c'est cette idée de... il disait que son disque, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui utilisent le langage pour illimiter le monde quelque part, quoi. Et je crois que moi, j'aimerais bien être de ceux-là, quoi. Ceux qui utilisent le langage comme ça, quoi.
Parce la force du langage.
Pour illimiter quelque part les choses, enfin illimiter le monde. Enfin, c'est un usage du langage qui est particulier, quoi. Et c'est vrai que Jean-Luc Parent, il a un langage qui est cyclique tout le temps. Il y a une force cyclique. C'est un état de... Ça amène chez le spectateur un état de concentration particulier. Qui...
Ça va un peu avec le conte. Dans la façon où il y a certaines choses qui sont répétées, qui sont comme dans les contes, les propos qui reviennent.
Ça permet de voyager dans son intérieur. La vie intérieure est très importante.
C'est loin qu'on puisse dire.
Je crois que pour définir nos conditions politiques, sociales, de vie, il faut aussi être à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si on est à l'extérieur, on se fait manipuler toutes les 5 minutes, donc on ne sait pas trop où on est.
Ah non, l'important,
mais je crois que l'être humain, et surtout dans notre période d'aujourd'hui, où on est tout le temps dans une grosse période de remise en cause... Je crois que c'est important de se recentrer sur ses besoins aussi, de quoi on a besoin pour vivre, qu'est-ce qui, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui fait qu'on est sur Terre, c'est des questions clés, quoi. Hein. Et pour ça...
Oui, c'est l'essentiel, revenir...
Oui, pour ça, et je crois que se voyager dans sa vie intérieure pour comprendre ce qui se passe, c'est important.
Comme dans beaucoup de vos spectacles, il y a un apport plastique important. Et là, donc, ce sont des sphères, des boules qui ont été fabriquées, créées par Jean-Luc Parent. C'est bien ça?
Oui, et là...
Ce sont des boules en papier.
En fait, c'est un spectacle musée quelque part parce que ce sont des œuvres d'art sont sur scène, qui ont été dans divers musées, dont une énorme boule qui a été entièrement manuscrite par Jean-Luc Parent. Il a passé une semaine à la faire. Cette boule n'a pas été faite pour le spectacle.
Oui,
elle est exposée dans divers musées. Vous pouvez la voir sur Internet.
D'accord.
Ce sont des œuvres qui sont sur scène.
Oui. Et donc, ces boules, donc, c'est du papier, mais il y a des feuilles de... Il y a celle qui est manuscrite, la plus grosse, mais après, il y a des feuilles de livres de Jean-Luc Collet, c'est bien ça?
La plupart des boules, ce sont des livres de poèmes qui ont été collés sur les boules. Ça, c'est une partie de l'espace plastique. Après, il y a les dessins projetés.
Oui, hein, et les dessins, qui est-ce qui les a fait?
C'est moi.
Ouais. C'est magnifique aussi.
J'ai dessiné tous les espaces que traversent les enfants.
Qui sont projetés en fond.
Oui, je dessine depuis l'enfance, j'ai jamais arrêté. Mm-hmm. Mais ce qui est beau aussi, c'est que c'est un collage entre nous deux. C'est-à-dire que moi, j'ai dessiné les espaces, et puis toutes les tapisseries des chambres, des chambres, des antichambres, enfin, tous les espaces traversés, les murs, ce sont des œuvres de Jean-Luc Parent que j'ai collées.
D'accord. Ah oui, cette notion de collage.
Il y a un collage, il y a un collage, quoi. Les traits, tout le graphisme, c'est moi. Et puis, tout ce qui n'est pas
l'intérieur,
ce qui est à l'intérieur, c'est des œuvres de Jean-Luc Parent qui ont été collées. Enfin, toutes les surfaces, c'est Jean-Luc Parent et le graphisme, c'est moi.
D'accord.
c'est une espèce de collage. Enfin, je pense que on imbrique nos univers, là. On les imbrique. Mmh.
Oui, ils se rencontrent, ils s'entrelacent, on peut
dire. C'est une expérience assez étrange.
D'accord. Et est-ce que c'est dans ces œuvres-là qui sont les différentes chambres, enfin les différents espaces, est-ce qu'éventuellement ils seront un jour, présentés dans un petit livre ou non ou pas? Ils sont tellement beaux.
Je ne sais pas quoi faire avec ce projet, avec ce texte, avec ce projet. Mon rêve, c'est de... J'ai plusieurs projets, d'accord. Soit une pièce de théâtre, bon, éditée en pièce de théâtre, d'accord, bien sûr. Oui. Mais bon, ça, c'est banal. Mais j'aimerais produire un album pour les enfants.
Ah oui, je trouve que c'est magnifique.
Oui. Ou alors un livre d'art, je ne sais pas. Et j'ai aussi le projet d'une édition numérique. Alors, l'édition numérique, c'est sur Marseille, ça permet d'avoir les dessins animés, parce que les dessins ils sont animés.
Oui, pas tous, mais
on peut encore les retravailler. Donc l'objectif, ce sont des dessins animés qui sont projetés. Ils ont été animés par Arnaud Romé qui m'a fait une animation. Mais on peut encore retravailler, pour une édition numérique, différemment encore. Et donc l'idée, c'est de faire du dessin en mouvement aussi. Je ne sais pas encore comment m'y prendre pour ça, mais je pense qu'il y a plusieurs versions possibles, mais la version album, oui.
Ah ouais, elle serait magnifique, parce que c'est vraiment très très beau. Quoi.
Mais vous pensez comment? Pour les enfants ou pour les adultes? Pour les deux, c'est
pour
ça?
Pour les deux, je pense. Parce que en fonction que la personne qui regarde est enfant ou adulte, elle n'y verra pas les mêmes choses. Mais déjà, d'un point de vue, comment dire, esthétique, c'est tellement beau, et puis c'est très onirique, c'est merveilleux, enfin, ça fait du bien aussi, quoi, ça repose, ça...
Oui.
Et puis ça fait du bien, c'est pour ça que je me dis que c'est...
Oui, il faudrait publier un album, mais en ce cas-là, pas avec la pièce, peut-être, l'album avec un petit résumé de chaque étape, quoi, plutôt version récit, ou en résumant, quoi, parce que...
Et juste après, parce que là nous allons devoir nous séparer bientôt, parce que et puis vous aussi, je sais que vous êtes fort occupé, surtout si vous avez une rencontre à animer ce soir en plus. Donc Jean-Luc Parent est là ce soir, c'est
oui,
ça?
Oui. Oui, il est là.
D'accord. Les choix musicaux, comment les avez-vous fait? Parce qu'il y a un peu, de temps en temps, il y a des virgules musicales, si on peut dire, enfin, un environnement.
Oui, je travaille sur des bruitages. D'accord. Donc... il y a divers compositeurs qui ont fait tous ces bruitages de forêt, cette espèce de nappe sonore mais complètement irrégulière. Ensuite, pour tout ce qui est la partie rock, il y a des morceaux, des univers, enfin des tensions qui sont marquées. C'est le groupe Columbus Duo, qui est un groupe de post-rock polonais à Gdansk.
D'accord.
Oui, avec qui je travaille aussi sur un autre spectacle.
Décidément, vous n'arrêtez pas.
Oui.
Donc, c'est encore ce soir et demain soir au Ring à 20h30. Donc, en sachant le petit prélude avec les étudiantes, c'est ça?
Oui.
Qui sont de nationalités différentes. Et voilà, et qui font une petite présentation, toutes vêtues de noir. Et puis après il y a les éblouis, donc dans la grande salle du Ring. Puisque les étudiantes sont dans la petite salle et votre création, c'est dans la grande salle.
Voilà, l'ensemble fait environ une heure. Quoi.
D'accord. Ok. Peut-être redire le nom. Bon, c'est mis en scène donc par vous et c'est joué par Ludivine Bluch, Charles-Éric Petit et Yves Gourmelon.
Voilà, c'est ça.
Yves Gourmelon qui joue souvent dans vos créations, dans vos mises en scène.
Oui, il jouait le rôle de l'opposante.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie-Madeleine.
Oui.